Les auditeurs. Pourriez-vous y demander qu'il lise ses courriels puis qu'il fasse ses concours, s'il vous plaît? La direction vous remercie.
Marceau, le midi.
1h03. Beaucoup de choses au sport. Victoire de 30-23 des Ravens de Baltimore sur les Chargers hier à Los Angeles. Deux passes de toucher et un touché par la course pour l'excellent Lamar Jackson. Dans la NHL, il y a eu 11 matchs disputés hier dans la Ligue nationale de hockey. Jim Montgomery qui a gagné son premier match comme entraîneur-chef des Blues de Saint-Louis. 5-2 sur les Rangers. Deux buts pour l'ancien des remparts Zach Bolduc. Canadien qui joue ce soir. On joue contre le club de hockey de l'Utah. Est-ce qu'il va y avoir une victoire? On se le souhaite. Joshua Roy qui va être sur le deuxième trio. La fierté de la Beauce qui va être là ce soir, donc ça va être à surveiller. Sinon, le seul autre match disputé ce soir dans la Ligue nationale, ça va être les Bruins face aux Canucks et ça se passe à Boston. Les Bruins qui vont tenter de rester parfaits sous les ordres de Joe Sacco. Il est de Libre Média, il est de retour de France. Son nom, c'est Jérôme Blanchet-Gravel de Libre Média. Salut!
Bonjour, bonjour.
Très content de t'avoir avec nous autres. Comment se passe ton retour sous la neige, mon ami?
Bien, bien écoute, c'est bien. Ça. Comme je disais, c'est novembre au Québec.
J'étais dans le quartier latin, en France.
Ouais, je suis une petite coupe de vin, quoi.
Pas juste une, quand même. Mais novembre à Paris, ça ressemble à novembre au Québec. Là. D'ailleurs, le lendemain où on est parti, il y a neigé à Paris, là, ça a fait beaucoup parler.
Ouais.
Vous avez vu
avant
les images?
Le Québec. En Europe, il a neigé beaucoup dans plusieurs pays avant le Québec.
C'est ben oui, c'est ça. Ça d'autres dérèglements climatiques.
Ouais. Y avait-tu des manifestations là-bas du temps où tu étais là?
Non. Ben, y avait les agriculteurs. Là. Il y a une nouvelle. Pas une insurrection, là, mais tu sais, bon, ça revient assez régulièrement. Les agriculteurs qui sont mécontents de bon des tarifs. Pas les tarifs, mais le contraire. Là, c'est-à-dire l'ouverture des marchés, donc la concurrence déloyale, là, c'était le Mercosur, donc là, ils veulent ouvrir le marché français aux produits brésiliens.
Ouais. Ils en ont arraché beaucoup dans la guerre Russie-Ukraine, parce que l'Ukraine était un des pays qui fournissait beaucoup en blé aussi. Fait que, quand tu vas prendre, mettons, la France, puis quand j'étais à Paris, je parlais avec du monde de ça, ils ont dû refaire toute leur chaîne d'approvisionnement, entre autres pour les croissants. T'sais, on en rit souvent, croissants, baguettes, mais c'est vrai que fait partie intégrale de leur alimentation. Puis ils exportent beaucoup, t'sais, parce que ça fait partie aussi de leur économie. Puis pour avoir le blé, la farine, et etc., pour le faire, l'Ukraine, qui était un des réseaux d'approvisionnement par excellence, a été impactée, sinon freinée. Il y avait des tarifs extrêmement élevés imposés par la Russie aussi dans le conflit. Eux, ils ont dû revoir où est-ce qu'ils pouvaient, s'approvisionner, puis s'ils pouvaient créer à l'interne. Fait que ça a énormément joué sur l'agriculture. Puis ça, c'est intéressant quand tu te mets à regarder ça, pour ici, parce que s'il advenait quoi que ce soit, mais nous, le blé qu'on a, là, c'est un blé que pendant une des guerres mondiales, je pense que c'est-tu la première, Jérôme, peut-être tu peux m'aider là-dessus. En tout cas, une des guerres mondiales, il a fait en sorte qu'on n'était plus capable d'alimenter notre monde. Fait qu'on a créé un grain de blé qui se reproduit beaucoup plus facilement. Là, il se produit, mais il n'y a plus de nutriments et de minéraux comme auparavant. Tout ce qui importait, c'était nourrir le monde rapidement. Fait qu'on a perdu en termes de qualité. Mais tu sais, c'est tous des enjeux importants, sous couche, que tant qu'on ne vit pas dans ces pays-là, on n'a pas d'impact, on comprend pas les impacts, mais ça pourrait nous arriver aussi.
Les agriculteurs là-bas, ils n'entendent pas rire là, quand ils sont fâchés.
Ils vident les camions.
Ils vident les camions de bouse en face de la mairie, puis tiens, tu t'organiseras avec la bouse.
Ils vident des camions chargés de nourriture. Ouais. Là, donc,
c'est comme si les gens à
Post-Canada. Illégal,
ben, c'est illégal. C'est comme si Post-Canada déversait vos lettres là, de Revenu Québec et Revenu Canada dans la rue.
Nous autres, on a du monde un peu perdu là, qui manifeste contre l'OTAN ou contre l'Israël, des pros-ci, des pros-ça. On a même une pro-nazie aussi qu'on a vu passer.
Oui, c'est
le propriétaire du Second Cup. C'est ce qui s'est passé dans les derniers jours. On est encore là-dedans. Trois arrestations seulement, Jérôme. Je trouve ça hallucinant.
Oui.
Puis la mairesse qui dit c'est peut-être pas ceux qui militaient en faveur de la fin de la guerre entre les Juifs puis la Palestine. C'est un autre groupe. Et là, t'as le chef qui dit oui, on a fait trois arrestations, mais moi, j'ai rien à dire contre les policiers qui ont fait vraiment une super de belle job.
Ouais.
Alors qu'ils ont, pendant cinq minutes, ils ont détruit à peu près tout ce qui était sur leur passage. Trois arrestations seulement.
Je trouve que
c'est gênant.
Bien, c'est une clémence complice, comme je disais sur X, c'est-à-dire que on sait que les Justin Trudeau, Valérie Plante, etc., sont complaisants envers ce genre de manifestants-là. Et on applique le deux poids, deux mesures. Donc, les camionneurs, c'est la loi, évidemment, martiale, la loi sur les mesures d'urgence. Et pour des manifestants antisémites, radicaux, etc., c'est des mesures quand même beaucoup plus souples, si on peut dire. Là. Donc, il y a une tolérance, il faut le dire, il y a une sorte d'une tolérance envers ces comportements radicaux. Et dans le cas du salut nazi, ça s'explique, parce que malheureusement, L'islamisme comme courant de pensée, le courant radical de l'islam est vraiment porteur d'un antisémitisme depuis très longtemps. Là. Ça remonte au 19e siècle, etc. Donc, il y a dans l'islamisme vraiment un antisémitisme qu'on peut même relier à certains points au nazisme. On sait qu'il y a eu des accointances historiques entre les nazis et les islamistes. Là, une célèbre rencontre entre le moufti de Jérusalem qui a été photographié et Adolf Hitler. Donc, ils partageaient en fait ces gens-là la haine des Juifs. Et ce salut nazi, finalement, s'inscrit dans cette mouvance-là. C'est pas anodin, c'est pas une erreur. C'est évidemment extrêmement choquant, etc., mais ça s'explique par...
Mais c'est une erreur de le faire, là,
au moment où on l'utilise. Oui, c'est une faute, oui, absolument. Excellemment...
C'est pas que les gens soient confus dans ton discours, c'est une erreur de le faire.
Oh, oui,
tout
absolument.
Explique d'où ça venait,
c'est ça.
Bien que ça ne légitime pas le geste.
Mais ça a une cohérence à l'intérieur de cette mouvance-là, donc... c'est ça, dans cette mouvance antisémite. Ce n'est pas totalement...
Mais la fille est mal à manger. Là. On s'entend une propriétaire de Sagan Cup à l'intérieur de l'hôpital juif qui se ramasse dans une manifestation pro-Palestine, anti-Israël, avec des saluts nazis. Tout est là pour faire un film.
c'est incroyable, honnêtement. C'est fou raide, là. Mais il faut lire, par exemple, là, j'ai fait une entrevue il y a quelques mois avec le politologue allemand Matthias Kunzel.
Ouais.
L'entrevue sur Libre Média est intitulée « L'islamo-nazisme, un courant occulté et sous-estimé ». Monsieur Kunzel, un Allemand qui s'intéresse à l'islam, à Israël, etc., lui remonte vraiment dans un livre célèbre, « Djihad et haine des Juifs ». Il retrace vraiment cette généalogie-là d'un antisémitisme... entre nazisme et islamisme, c'est vraiment pas... c'est tout à fait... s'explique par l'histoire.
Est-ce qu'on est trop soft envers les casseurs dans les manifestations? Parce que je veux pas embarquer tous les manifestants qui étaient là en fin de semaine dans le groupe de casseurs. Je pense qu'il y avait un certain pourcentage qui l'étaient, puis d'autres qui étaient là pour les bonnes raisons. Pendant un temps, on est au Canada, une belle démocratie, les gens ont le droit de manifester. Mais ceux qui cassent les choses, on les laisse littéralement casser les choses, puis t'es jamais plus fort que le maillon faible de ta gang, donc puis t'as une tendance à vouloir peut-être descendre ton QI au même niveau que lui, parce que tout d'un coup, ça donne qu'il y a une belle paire de chaussures qui est dans la vitrine, puis tu la veux,
ben
et
oui.
Tu te dis, ben si lui casse, moi aussi j'ai le droit de casser. Est-ce qu'on pourrait y aller? Puis moi, je suis un peu drastique là-dedans. Là. Tu sais, il y avait eu une guerre de motards il y a de ça quelques années au Québec. On avait interdit aux motards de porter des crests, des Hells Angels, sinon c'était 10 ans minimum de prison. Puis ça a fait en sorte que si on voyait leur crest, puis les couleurs des Hells Angels, ben, on les envoyait 10 ans minimum en tôle, fait que les gars se cachaient, tu comprends? Est-ce qu'on leur dit, si vous faites prendre dans une manifestation pacifique à casser des choses, c'est un minimum d'un an de prison qui vous attend, et si jamais vous êtes en demande pour venir rester ici pour de bon Canada, ben c'est dommage, mais ça va être annulé, puis vous retournez d'où vous venez, parce que vous n'êtes pas capable de vivre en communauté.
Parce qu'on a relevé une présence importante de gens issus de l'immigration dans cette manif-là en fin de semaine.
Ben, c'est, si tu regardes les images, là, il était drôlement triqué.
Ouais, okay,
ou il était déguisé, tiens.
Ben d'où ce qu'on explique. Hein? Donc, côté aussi de relève, je ne suis pas le seul, l'antisémitisme actuellement.
À partir du moment où tu t'en vas dans une manifestation masquée, là,
ouais.
Tes intentions, c'est quoi?
Donc, toi, dans le fond, tu poses la question, est-ce que...
On est-tu trop soft?
Oui,
les casseurs?
Probablement. Ensuite, par contre, dans toutes les manifs, souvent, bon, il y a de l'agitation, puis il y a un effet d'entraînement là, dans tout ça. C'est-à-dire, quand il y a eu les camionneurs, par exemple, bon, il y a beaucoup de gens qui s'attendaient à ce que bon, la police reste entièrement pacifique. Bon, il y a un certain point où
ils appelaient les terroristes, les gars, ils prenaient des spas. Oui, non.
C'est sûr que, bon, quand je dis deux pas, deux mesures, on est exactement là-dedans. Là. Donc, d'un côté, la loi des mesures de guerre, de l'autre côté, presque rien. Comment les autorités peuvent-elles réagir? Écoute, je pense qu'il faut être plus ferme. On est un peu bisounours, hein, aussi. On s'imagine que toutes les manifestations peuvent rester pacifiques. En fait, non. Dans des manifs, il y a toujours enfin un risque d'éclatement. C'est même très surprenant qu'il n'y en ait pas eu plus que dans les mesures sanitaires. Là, qu'il n'y ait pas eu de... C'est même incroyable, en fait, que ce mouvement-là soit resté pacifique. Parce que dans toutes les manifs dans le monde, en général, ça pète. C'est juste au Québec qu'on dirait qu'on pense qu'on est
tellement
bon.
Moi, je suppose que c'est resté parce que les gens... vivait pour la première fois un enjeu de santé publique de cette manière-là, puis personne ne savait quoi faire avec ça. Fait qu'il y avait quand même des barrières quant à revendiquer la manière de faire de façon où ça déborde, là, puis pas penser, puis avec un manque de jugement. Parce que, justement, ça reste comme... On était tellement méconnaissants, puis on voulait quand même pas tomber malade ou autre, tu sais. Moi, c'est ma supposition.
de nouveauté, mais c'est comme si on était en train, en fait, de connaître ce que les autres pays connaissent. C'est-à-dire, on n'est pas habitué, dans le fond, au Québec, à avoir des manifestations violentes. On ne sait pas vraiment comment composer avec ça. Puis on est probablement appelé à en connaître de plus en plus, surtout si concernant ces enjeux-là. Donc, c'est sûr qu'on a un peu importé, il faut le dire, des conflits étrangers qui nous concernaient, bon, relativement. Bon, il y a une communauté juive au Canada depuis longtemps, des musulmans aussi depuis un peu moins longtemps. Mais c'est aussi, on importe, en fait, d'une certaine façon, les problèmes d'autres civilisations. Donc, c'est sûr que si on continue avec une immigration comme ça, on le voit que les Sikhs, par exemple. Donc, les Sikhs ont manifesté aussi récemment devant des consulats, etc. Consulat de l'Inde à Toronto, je pense. Donc, ça s'excite et on ne sait pas comment réagir parce que, dans le fond, on ne connaît pas ça. On est dans une société très aseptisée et on s'imagine que tout le monde est pacifique, etc. Mais oui, je pense que la police doit d'abord prendre acte qu'on va connaître une augmentation, je pense, de ces actes-là.
On est tellement soft que j'écoutais la radio de Montréal hier soir, puis les bulletins de nouvelles, puis il y a des groupes qui étaient dans cette manifestation-là qui reprochaient à la police d'avoir envoyé des lacrymos pour que tout le monde puisse se dissiper au travers de la ville puis arrêter cette manifestation-là qui avait comme plus de bon sens. Tout le monde était en train de péter des affaires. Je veux dire, des manifestants qui disaient « Ouais, mais ils nous ont tiré de la lacrymo. » Oui, mais ils sont en train de briser la rue. Ils sont en train de s'attaquer aux policiers. Ils sont en train de s'attaquer aux journalistes. Votre point ne se fera plus entendre, là. Allez-vous-en. Puis envoyez des lacrymos. Puis là, ben, c'était comme si les policiers avaient agi trop violemment. Écoute, dans certains pays, comme tu le dis, là, les policiers ils rentrent dans le tas. Là,
non, mais en France, c'est incroyable. Là, en fait, il faut que les manifestants aussi soient conscients. Ça marche des deux bords. Les manifestants, quelle que soit la manif, doivent s'attendre, s'ils sont participent à ce genre de marche-là, à assister ou à être eux-mêmes victimes de ces débordements-là. Ils peuvent recevoir, je ne sais pas, un coup de poing perdu, comme on dit.
S'ils côtoient en plus des casseurs, il faut que tu saches un tasser ou...
Il faut s'assumer quand même. Là.
Ou faire en sorte que tu sois dans un courant assez fort que s'il y a des casseurs, ben vous êtes en majorité pour les arrêter vous-même, t'sais, pour pas qu'ils brisent votre manifestation pacifique.
Il y a un esprit tout à fait de naïveté, ouais. Incroyable. Et des deux côtés. D'un côté, les manifestants, eux, pensent que ils seront ils ont le droit de manifester, etc., puis qu'ils vont rester à l'abri de tout ça. Et d'un autre côté, les policiers, eux, sont pas habitués à riposter et à faire face à ce genre... Il y a eu le sommet des Amériques, là, mais à faire face à ce genre de... de débordements violents qui existent partout, dans tous les pays à peu près, sauf le Canada, qui est une espèce d'île insulaire qui se croit à l'abri, une sorte de safe space, mais c'est de moins en moins un safe space.
Exact. Je veux parler avec toi de Donald Trump qui veut imposer des taxes douanières de 25 %. Là, les médias à grandeur du Québec sont en train de paniquer.
Ben oui.
Ce que Donald Trump dit, c'est que la taxe va être en vigueur jusqu'à ce que les drogues, en particulier le fentanyl, qui est souvent importé du Canada et qui rentre par les États-Unis, par les réserves, et tous les immigrants illégaux, j'imagine qu'il s'adressait au Mexique dans ce dossier-là, arrête cette invasion de notre pays. Donc, 25 % jusqu'à temps que le fentanyl arrête de rentrer aux États-Unis puis que les immigrants illégaux arrêtent de provenir du Mexique. Est-ce que les médias ont raison de partir en campagne de peur avec ça?
Bien, d'abord, ils ont une mauvaise lecture, là. J'ai l'impression que les gens des médias alternatifs doivent de plus en plus expliquer aux enfants de la télé les phénomènes qui surviennent. Donc, on a lu toutes sortes de choses, mais ce qu'il faut bien comprendre, quand tu dis le Mexique, quand il parle des immigrants illégaux, il parle du Mexique, mais maintenant, il parle aussi du Canada. Parce qu'il y a
un mouvement inverse qui se passe.
Il y a de plus en plus de gens, de migrants illégaux, qui passent par le Canada pour traverser aux États-Unis. Okay. Et moi, j'en ai rencontré plusieurs, d'ailleurs, au Mexique, qui m'ont raconté tout ça, leur stratagème. C'est pour ça aussi que les autorités canadiennes sont de plus en plus sévères à l'égard des Mexicains qui prennent l'avion pour le Canada, donc ce qu'on appelle le contrôle de l'AVA. J'en ai été victime, moi, souvent, parce que, je voyage avec deux Mexicaines, souvent ma femme et ma fille, qui sont nées à Mexico. C'est très compliqué, donc ils sont très, très contrôlants, avec raison. Mais tu sais, bon, les individus comme tels, on écope, tout le monde écope de ça. Mm-hmm. Mais donc, les autorités canadiennes quand même font un certain travail, mais pas assez, manifestement, aux yeux de Donald Trump. Donc oui, c'est vrai, Marceau, il y a de plus en plus de gens, que ce soit des Mexicains ou même des Centro-Américains ou autres nationalités, qui passent par le Canada pour aller directement aux États-Unis.
OK. Fait que l'impression qu'on avait, là, avec le fameux mur entre les États-Unis puis le Mexique, les gens préféraient passer par là. Là, il y a un autre chemin. On passe du Mexique, on s'en va vers le Canada, puis après ça, on passe dans le bois ou par les réserves.
Exactement. C'est okay. ça qui est en train de se passer. Donald Trump, cette année, beaucoup d'élus sénateurs se sont tannés aussi. Manifestement, ça fait des mois qu'on réclame chez les Républicains plus de contrôle à la frontière canadienne, qui est une des plus grandes frontières là, non gardées, ou en tout cas à peu près. Bon, évidemment, c'est tellement grand ce tracé-là, tellement ouais. long, que c'est impossible, évidemment, d'avoir des points de contrôle partout, là, on s'entend. Mais les Américains se sont tannés. Louis Gauthier me disait tout à l'heure aussi... dans un échange privé, que la question du fentanyl là, qui arrive beaucoup par le port de Vancouver. Et ça, c'est vrai, ça tanne beaucoup les Américains, le fentanyl. Vous savez, il y a trois... Je donnais une statistique. C'est assez incroyable, le fentanyl, comment ça fait des ravages aux États-Unis. C'est rendu plus de morts par fentanyl aujourd'hui que d'Américains morts au Vietnam. Ça, c'est une statistique assez étonnante qu'on sort assez souvent. Donc, juste pour vous dire... une personne meurt d'une surdose de fentanyl toutes les 7 minutes aux États-Unis. 7 minutes, un mort, 7 minutes.
Donc, ça émet ça ouais. beaucoup plus la provenance, admettons, mexicaine et canadienne. Parce que tu comprends un président qui ne veut pas que ça rentre sur son pays. Puis c'est tellement difficile à éradiquer, c'est tellement difficile à contrôler. Le hic étant, c'est un peu flouté, selon moi, certaines informations que dire... Tant qu'il y aura, premièrement, de la drogue qui va rentrer dans le fentanyl et l'immigration illégale, il va y avoir ces taxes douanières-là. Pour moi, c'est comme un petit peu deux sujets.
Oui, mais c'est comme ça qu'il
sa politique, il décide de le faire.
Il l'a déjà fait au
Mexique.
Jamais
il a caché qu'il était protectionniste aussi de son économie. C'est juste que c'est comme un peu impossible. C'est comme dire l'itinérance de l'eau à
réussi,
Québec.
Il a déjà réussi en partie, je vous le dis.
Ce ne sera jamais 25
%. Non, 25 c'est trop. C'est 5 % qu'il y avait... Il avait menacé le Mexique de 5 % en 2019. Mais c'est pas impossible parce que...
D'éradiquer le transport de fentanyl?
Non.
De drogue puis d'immigration illégale?
L'immigration, Donald Trump avait réussi à forcer le président mexicain AMLO, Andrés Manuel López Obrador, en 2019, l'a forcé à retenir une grande partie des migrants en territoire mexicain. Donc, le Mexique est devenu la police migratoire des États-Unis au Mexique. C'est même qu'au Guatemala... la frontière avec le Guatemala, en dessous du Mexique, on a repoussé beaucoup des gens à la frontière de Chiapas.
Donc, il a réussi, il l'a fait quand même.
Non, zéro, c'est impossible. Il n'y a pas la cible zéro, ça n'existe pas. Là.
C'est un peu camouflé cette envie-là aussi de protectionniste économique là-dessus. Puis, en même temps, c'est un enjeu auquel il veut s'attaquer. Ça, on comprend un président de vouloir s'attaquer à cet enjeu-là. Mais de dire qu'il pourrait le mener à zéro et que là, on enlèverait les taxes.
Zéro, non, mais comme je vous dis, il a quand même réussi dans le cas du Mexique. Là. Après ça, c'est le Mexique qui a écopé, puis tout le monde se renvoie la balle.
Il veut ajouter une pression il a dit le 25 %, c'est parce que c'est tellement élevé que ça n'a comme pas de bon sens. Mais dans son livre, là, The Art of the Deal, là, que vous pouvez lire, là, c'est tout le temps ça. Principe de négociation, là, demandez-en tout le temps plus pour faire peur, puis après ça, vous allez pouvoir négocier sur le pourcentage. Ça va peut-être finir par un 5 % finalement. Hey, on importe, je pense que le déficit, c'est 75 % des choses qu'on importe des États-Unis. Versus 25 % qu'on
leur donne. Je pense que c'est combien de pourcents des importations canadiennes? C'est incroyable. Je pense que c'est 75 %
Oui, c'est ça. Fait qu'on a un déficit, là.
Donc,
il y a le gros bout du bâton, en fait.
Oui, absolument. Quand je dis ça, au début, d'entrée de jeu, je vous disais, les médias avaient une mauvaise lecture. C'est ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on utilise effectivement un sujet pour en traiter l'autre. Donc, ils utilisent le levier des tarifs pour mettre la pression sur le Canada pour d'autres choses, c'est-à-dire les immigrés illégaux et le fentanyl. Mais c'est gros, le fentanyl, là, quand même. On soupçonne même la Chine d'être un peu derrière cette forme de soft power, c'est-à-dire les États-Unis pensent, il y a des gens du renseignement, etc., qui pensent que les Chinois font exprès d'envoyer du fentanyl dans les journaux mexicains. J'ai écrit un article, d'ailleurs, en Libre-Média, en mars 2023, intitulé « La Chine alimenterait la crise du fentanyl aux États-Unis ». Donc là, il y a toutes les statistiques, etc., mais des observateurs très sérieux là, qui considèrent que la Chine s'est fait exprès de fournir du fentanyl, notamment au cartel mexicain, pour envoyer ça aux États-Unis pour faire des morts, tout simplement. Donc c'est comme une guerre, pas une guerre larvée, là, mais une guerre soft.
Tout ça pour nuire à l'Amérique, à l'Amérique.
Exactement.
Du Nord.
Donc les Américains sont très, très échaudés. Et au Canada, on comprend encore assez mal cette question du fentanyl. Là, on commence à voir des effets dans certaines villes, même à Québec. Là, j'avais parlé aux gens de l'Aubrivière, etc. Il y a du fentanyl à Québec, là, on le sait. Mais c'est ça. Mais ça n'a pas la même ampleur qu'aux États-Unis. Et les Américains ont perdu patience. Ont perdu patience avec le fentanyl. Et ça explique les comportements à la Trump, qui peuvent paraître, à première vue, c'est ça, mélangé. C'est-à-dire, oui, il y a l'air de mélanger les sujets, mais quand on décortique bien, on s'aperçoit qu'il y a quand même une logique là-dedans. Puis c'est comme tu dis, c'est l'art of the deal. Là.
C'est un deal maker. On va y goûter, peut-être, si on n'exécute pas ce qu'il demande. Hey, tu étais en France, tu as réalisé des entrevues. As-tu quelque chose à nous donner sur Libre Média?
Oui, cette semaine, demain, on diffuse une grande entrevue avec Christian Rioux, le correspondant du Devoir à Paris. Cool. C'est une entrevue d'une heure et sept qu'on a tournée dans le quartier latin. C'est bon. C'est très bon. D'ailleurs, Rioux nous fait part de sa lecture de la réélection de Donald Trump, une lecture qui n'est pas tout à fait politiquement correcte. Donc, puis il y a deux autres grandes entrevues aussi. J'en ai fait une avec un type qui s'appelle Gaël Brussier, qui est très présent dans le paysage intellectuel français, et une autre avec Théo Mogenet, qui est le directeur Europe de Bull Bitcoin. Donc, lui, il va nous parler de Bitcoin, l'économie française, comment... composé avec cette espèce de bureaucratie monstre qui, en Occident, essaie de ronger nos revenus. Donc, suivez ça, LibreMédia, avec .com avec un trait d'union.
Jérôme Blanchet-Gravel, merci.
De plaisir.
13h24, The Offspring.